puisse dire, si on regarde la fourchette au sein de laquelle évolue le CAC 40 depuis ce matin, elle n'excède pas une dizaine de points. En ce moment, l'indice se replie de 0,09%, c'est très léger, à 3 760 points. Une tendance hésitante que l'on retrouve ailleurs en Europe, puisque l'euro first 80, lui, progresse de 0,1%, essentiellement entraîné par des places comme Milan et Madrid. Sur le marché d'échange, l'euro reste ferme face au billet vert. Il cote en ce moment 1,3399 $. Voilà, Claire, je vous rappelle le CAC 40 qui en ce moment perd 0,09% à 3 760 points. À la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Merci Cédric, vous écoutez France Inter, il est 14h03. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième et dernière partie de nos deux émissions spéciales sur les Indiens d'Amérique du Nord.
Un matin, alors que je planais.
Un bon indien est un indien mort. Général Sheridan, commandant l'armée américaine à l'ouest du Mississippi. D'histoire. Le 29 décembre 1890, à Wounded Knee, les soldats du 7e régiment de cavalerie ouvraient le feu sur 300 Indiens Sioux avant de les jeter pêle-mêle dans une fosse commune, quelque part dans le Dakota du Sud. C'était le dernier acte de ces guerres qui, à la fin du 19e siècle, ont opposé l'armée américaine aux Indiens des États-Unis. Un peu plus d'un siècle après la proclamation de leur indépendance, les Américains achevaient donc la conquête de l'Ouest par un massacre d'Indiens qui vivaient depuis des siècles dans les grandes plaines au pied des montagnes rocheuses. Ces immenses territoires qui faisaient autrefois partie de la Louisiane française et qu'en 1803, Napoléon avait cédé au gouvernement des États-Unis. Pour une poignée de dollars, l'empereur des Français scellait le destin des Indiens et donnait au président Jefferson le moyen d'étendre son pays de l'ouest du Mississippi jusqu'aux rives de l'océan Pacifique.
Félicitations pour la Louisiane, monsieur.
En payant 15 millions de dollars en or, nous avons acquis un vaste territoire. Nous n'en connaissons que ce qui va de l'embouchure du Mississippi au confluent du Missouri. C'est insuffisant.
Qu'envisagez-vous, alors?
Une mission de caractère militaire. Pour explorer et dresser la topographie des lieux, en connaître les ressources, sols, minéraux, animaux et flore, un territoire ne vaut rien s'il est inexploitable.
C'est une vaste entreprise, monsieur le président.
À l'échelle du pays, Lewis. Il faut d'abord remonter le Missouri jusqu'à sa source et ne pas s'en tenir là, mais pousser beaucoup plus loin vers l'ouest.
Au-delà de la Louisiane?
Jusqu'au Pacifique, si cela est possible.
Mais ce territoire n'est pas à nous.
Et ni à nous, ni à personne. Le rêve d'où est sorti un jour ce pays ne sera vraiment réalité que lorsque les États-Unis s'étendront de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Vous aurez besoin d'un autre officier. En avez-vous un parmi vos amis à désigner?
Oui, monsieur. Le lieutenant William Clark.
William Clark.
C'est un bon soldat. Il a déjà combattu les Indiens.
Entrez la passerelle! Larguez les amarres! Dégagez! Allez-y de l'arrière! Barre tout à tribord!
Marie-Hélène Fraissé, bonjour.
Bonjour Patrice.
Alors, c'était le départ en 1803 sur le Mississippi de Lewis et Clark, deux Américains chargés, on l'a entendu par le président des États-Unis, d'aller explorer ce qu'il y avait au-delà, à l'ouest du Mississippi, parce qu'au fond, les États-Unis, à cette époque-là, ça s'arrêtait encore au Mississippi, et d'aller découvrir des territoires qui appartenaient à des gens, hein, contrairement à ce qu'on a entendu, contrairement à ce que disait le président des États-Unis sans doute à l'époque, c'est-à-dire des Indiens. Nous avons parlé hier avec vous de la rencontre entre les Indiens de l'Est des États-Unis avec les premiers colons anglais ou français venus d'Europe. Mais là, ce sont des Indiens qui, eux, n'ont pratiquement jamais vu d'Européens encore, qui sont très peu connus.
Ils ont vu des traiteurs de fourrures français. Et d'ailleurs, Lewis et Clark ne vont réussir, d'ailleurs, magnifiquement, ils vont réussir, mais seulement avec le concours de ces voyageurs, French voyagers, comme on disait, qui étaient là depuis très longtemps, qui étaient souvent des métis, qui étaient donc les descendants des premiers traiteurs de fourrure. Alors, il y en a certains qui sont restés célèbres, un certain Charbonneau notamment, qui était le compagnon de Sacajawea. Sacajawea, l'Indienne, donc, qui va permettre à Lewis et Clark de trouver leur chemin du côté du partage des eaux. Donc, il y avait des contacts avec les Blancs, effectivement, de loin en loin, et à travers la fréquentation presque unique des Canadiens français.
Alors là, ce sont des Américains qui arrivent, Lewis et Clark, qui vont rencontrer des Sioux, des Cheyennes. Enfin, il y a beaucoup de tribus indiennes, mais à cet endroit-là, ce sont plutôt des Sioux et des Cheyennes. Plus tard, au sud, les Américains devront également conquérir des territoires qui appartenaient, avant que les Américains les achètent, aux Mexicains, au Nouveau-Mexique. Ce sont les Apaches, ce sont les Comanches ou les Navarros. Mais ça, c'est le début, au fond, de la conquête de l'Ouest. Après les explorateurs, après Lewis et Clark, arriveront très vite les premiers pionniers, les premières caravanes qui vont vers l'Ouest, et notamment celles qui sont poussées par l'existence, la découverte d'or en Californie, Marine Frissé.
Oui, tout le 19e siècle est fait de cette lente avancée, donc, depuis la côte Est jusqu'à la côte Ouest. Ça va se faire de manière, d'ailleurs, assez anarchique, et ça va être constamment le problème du pouvoir à Washington, et ça sera également le cas pour les Canadiens, puisque les Canadiens aussi ont leur poussé vers l'Ouest, de maîtriser notamment les colons qui arrivent, qui sont des gens qui n'ont rien à perdre, qui ont quitté soit l'Est du pays, soit l'Europe, qui ont tout à gagner, qui ne sont pas regardants sur les moyens, et qui évidemment, quand ils sont confrontés aux Indiens et qui ne sont pas sous les yeux de l'autorité, ont tendance à régler leur compte un petit peu facilement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, sur cette épopée, entre guillemets, blanche, dans l'Ouest, on a quand même la vision des Indiens. Et ils s'expriment. Ils s'expriment d'ailleurs pas assez à mon gré, parce que lors de cette commémoration de Lewis et Clark, donc il y a tout au cours de l'année 2004, puisque ça fait donc deux siècles, on avait organisé des comités de réunion avec les Amérindiens, qui ont dit beaucoup de choses passionnantes, mais quand on lisait les brochures, on s'apercevait que leur voix n'était pas entendue. Alors moi, je me suis amusée à leur poser des questions. Alors, j'ai rencontré par exemple les Blackfoot à ce sujet, qui m'ont expliqué comment ils avaient vu l'arrivée de Lewis et Clark. C'est vrai que
Ils vivent au nord des Rocheuses, hein, les Pieds Noirs.
Oui, c'est ça. Alors, ils sont à cheval sur du côté de l'Alberta, si vous voulez, et du Montana. Alors, les Blackfoot racontent quand même un épisode assez désolant. C'est qu'un jour, les Lewis et Clark sont arrivés. Ils ont vu des jeunes qui, en fait, venaient de participer à une initiation qui consistait à aller voler des chevaux, qui étaient donc en tenue. Ils avaient leur peinture. Ils ont cru qu'ils allaient être attaqués. Et il y a eu une tuerie de très jeunes Indiens, parce que ce que dit la communauté Blackfoot, c'est que les garçons qui ont été tués lors de cette échauffourée, c'était des garçons de 14 ans. Bon. Ça, vous voyez, alors quand on écoute les Indiens, on apprend d'autres aspects de cette glorieuse conquête de l'Ouest. Et quand les Nez-Percés parlent de la manière dont ils ont rencontré Lewis et Clark, eh ben, ils expliquent qu'en gros, Lewis et Clark leur ont dû leur survie. Donc, vous voyez, on a vraiment deux versions.
Alors, la conquête de l'Ouest, c'est donc ces explorateurs, Lewis et Clark. Après, on l'a déjà dit, ce sont les premiers pionniers, les caravanes de pionniers qui vont vers la côte Ouest. Et puis, certains s'arrêtent au milieu, dans les grandes plaines, chez les Indiens. Et puis, ce seront bientôt les chemins de fer qui vont également traverser les territoires indiens, et avec des ouvriers chargés de leur construction. Et pour nourrir ces ouvriers, eh bien, des chasseurs de bisons, dont l'un deviendra, grâce à un journaliste américain, Ned Buttline, le symbole de la conquête de l'Ouest.
Un matin, alors que je planais dans un camp de pionniers, j'aperçois ce gamin maigre et décharné étendu sous un charbon. Je le tire par les pieds, je le regarde de haut en bas, et je sens que je tiens là une vedette. Alors je lui dis: comment tu t'appelles? Il répond: Cody. Bill Cody. Quel est ton métier, Julie? Chasseur de bisons et parfois éclaireur. Alors je dis à ce garçon: à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Buffalo Bill. Et avant 6 mois, tu seras porté en triomphe par toute l'Amérique.
Monsieur le Président, Madame la Présidente, honorables invités, voici la vedette nationale de l'Amérique. L'homme qui incarne l'Ouest sauvage, le très honorable William F. Cody, Buffalo Bill.
Alors, le mythe de Buffalo Bill à la fin des années 1860, au début des années 1870, Marilyn Frayser, c'est un chasseur de bisons parmi d'autres. Cela dit, ce n'était pas innocent de chasser le bison. Nous l'avons dit hier, le bison, c'était vraiment vital pour les Indiens des Grandes Plaines.
Ah oui, oui, absolument. Alors, quand même, j'ouvre une petite parenthèse, c'est que vous savez que Buffalo Bill est venu en France avec le Wild West Show, et moi, j'ai une grand-mère qui, toute petite, avait vu ce show.
Il avait une renommée internationale. Oui.
Et il avait même montré Sitting Bull dans son show, quand même, le grand chef Sioux.
Mais les bisons, parce que...
Alors les bisons, effectivement, étaient le mode de subsistance, si vous voulez, l'animal vraiment clé dans la subsistance des tribus des plaines, parce qu'ils en tiraient une grande partie, donc, de leur nourriture. La fourrure servait pour les tentes, servait pour couvrir par grand froid les gens... et les cornes servaient à faire des outils. Enfin, c'était vraiment l'animal. Il y en a un autre d'ailleurs dans le nord, c'est le caribou, si vous voulez, dont les Indiens tiraient beaucoup de choses.
Le général Sheridan, on l'a cité tout à l'heure, qui disait un bon Indien est un Indien mort, disait aussi tuer un bison, la balle ricochera sur un Indien. Autrement dit, on savait très bien d'ailleurs qu'en tuant les bisons, en décimant les bisons, même si c'était pour nourrir les ouvriers du chemin de fer, ça décimait aussi, ou en tout cas ça rendait très difficile la vie des Indiens, justement, que l'on privait de quelque chose de vital pour eux. Et est-ce que c'est ça qui est à l'origine aussi de tous les conflits qui se multiplient entre les colons qui se trouvent maintenant installés dans les plaines et les Indiens, Marilyn Frayser?
C'est vrai que les Indiens, du coup, devenaient dépendants des rations. Ils commençaient d'ailleurs à être repoussés, donc parqués. On leur promettait des terres, par exemple les Sioux, qui d'ailleurs n'étaient pas dans le passé aussi loin à l'ouest. C'est-à-dire que ce sont des populations qui, au cours des siècles dont on a évoqué hier, avaient déjà commencé à se déplacer vers l'ouest, justement sous la poussée des Blancs et des colons. Et donc, aux Sioux, par exemple, on propose, dans le cadre de ces très longues et très compliquées négociations qui vont durer pendant tout le 19e siècle, un territoire dans les Black Hills. Les Sioux sont dans les Black Hills, ça s'est pas trop mal soldé pour eux. Seulement voilà, on trouve de l'or dans les Black Hills quelques années après. Et comme par hasard, à ce moment-là, et ça montre bien comment le pouvoir blanc agit, il renégocie le territoire avec une fraction minoritaire des Sioux, et cette fraction minoritaire cède les Black Hills. Et c'est encore un problème aujourd'hui, c'est-à-dire que les Sioux disent « Nous n'avons jamais cédé les Black Hills ». C'est vrai, c'est un endroit absolument magnifique. C'est là, d'ailleurs, où il y a les effigies des présidents, vous savez, dans la montagne. Donc, toutes ces négociations, toutes ces échauffourées compliquées avec les compagnies de chemin de fer, avec les colons, vont faire que les Indiens, évidemment, se sentent cernés. Et que, ici, là, et notamment les Sioux, résistent et se décident à combattre d'une manière qui, à certains égards, est désespérée.
Vous avez évoqué les réserves, au fond, ce qu'on cherche à faire, ce que le gouvernement des États-Unis cherche à faire, c'est pas tellement leur faire la guerre. Ça, les colons souhaitent évidemment que des soldats déciment les Indiens, mais le gouvernement américain, lui, il temporise un peu. Il souhaite les mettre dans des réserves. Et vous rappelez dans votre livre, Marilyn Frayser, que l'idée des réserves est déjà ancienne. Au début du 19e siècle déjà, certains Indiens de l'Est des États-Unis, les Cherokees, avaient été placés dans un État qui existe encore, qui s'appelle l'Oklahoma. Ça veut dire, je crois, la terre de l'homme rouge. Des hommes rouges, on leur avait dit, installez-vous là, on vous laissera tranquille. C'est au fond la première réserve, l'Oklahoma, des États-Unis.
C'est-à-dire qu'en 1803, quand Jefferson acquiert donc ce Grand Ouest, il a déjà ce scénario en tête qui consiste à concéder aux Indiens une immense partie de ce qui est à l'ouest du Mississippi. Et petit à petit, bien entendu, il va être obligé, les présidents successifs empiètent sur ce territoire. Alors, on voit les cartes autour des années 1820-1830, on voit un immense Indian Territory qui va petit à petit réduire comme une peau de chagrin et qui va devenir l'Oklahoma, qui lui-même, par la suite, sera investi et ne sera plus du tout la terre réservée aux hommes rouges. Pourquoi ? Parce qu'il y a de très bonnes terres agricoles et qu'il va y avoir un rush. Et puis ensuite, il y a du pétrole. pétrole. Donc, on donne une terre aux Indiens sous réserve qu'elle ne présente aucun
qu'elle
intérêt.
Qu'elle n'ait ni or ni pétrole. Oui. Alors, au fond, c'est des promesses non tenues qui déclenchent ces grandes guerres indiennes qui se déroulent après la guerre de sécession. Évidemment, la guerre de sécession, c'est une espèce de pause, sauf évidemment pour les Américains, enfin des États-Unis, puisqu'ils se battent entre eux. Mais au lendemain de cette guerre de sécession, les guerres indiennes reprennent. D'ailleurs, souvent, avec un certain succès pour les Indiens. Hein, on a tous entendu parler de la fameuse célèbre bataille de Little Bighorn, je crois que c'était en 1876. 200 soldats américains du général Custer se font tuer donc à Little Bighorn.
Oui, c'est une des rares d'ailleurs grandes batailles qu'aient remporté les Indiens. Et d'ailleurs, quand on va sur le site de Little Bighorn, où je me suis rendue il y a de ça 6 mois pour la première fois, c'est très émouvant parce que on voit bien que c'est l'ultime victoire. Et en même temps, on voit bien aussi comment le gouvernement travaillait au corps les nations indiennes, puisque dans la bataille de Little Bighorn, il y a les Sioux de Sitting Bull qui sont contre Custer, mais Custer a comme alliés les Indiens Crows, les Crows qui sont eux-mêmes des cousins des Sioux. Donc vous voyez, c'était aussi divisé pour régner.
Mais ils exploitent au fond les divisions des Indiens. C'est la même chose d'ailleurs qui va se passer avec les Apaches. Hein. Je crois que effectivement, après avoir battu les Sioux, c'était une victoire des Sioux un peu à la Pyrrhus. Les Sioux eux-mêmes seront obligés finalement d'accepter d'aller dans des réserves. Là commence une dernière guerre contre les Apaches, même divisés. Les Américains emploient d'ailleurs de leur côté des guides Apaches. Mais en 1886, quand Geronimo, qui est le dernier à se battre, décide de se rendre, eh bien, les uns comme les autres, aussi bien les guides Apaches qui se battaient aux côtés des Américains que les Apaches dissidents de Geronimo, sont tous envoyés en Floride.
Par ordre du gouvernement et du président des États-Unis d'Amérique, tous les guides Chiricahua sont en état d'arrestation et seront transférés à la prison de Fort Marion, à Saint-Augustin, en Floride, avec les hors-la-loi Apache dirigés par Goyacla, alias Geronimo. Les guides Apache des tribus de White Mountain, Coyotero et Mescalero doivent retourner immédiatement dans leur réserve d'état. Ils devront y demeurer 24 heures sur 24, à moins d'avoir obtenu la permission de se déplacer. Leur mission pour l'armée des États-Unis est terminée. Nous les remercions de leur contribution.
Attends, récupérez les armes.
Et c'était le désarmement des guides Apache. Ça fait un peu penser aux Harkis à la fin de la guerre d'Algérie, qui se battaient aux côtés des Américains contre le chef Apache Geronimo. C'est la fin, au fond, 1886, c'est la fin.
Quelques rebelles encore. Il y a quelques Apaches Bronco, vous savez, Bronco Apache, ouais. Thème très utilisé dans le western, qui sont restés dans les montagnes du côté de la frontière du Mexique. Mais tout ça, c'est absolument terminé dans les années 1920.
En tout cas, après la reddition de Geronimo, il y a encore, ça c'est plus une bataille, c'est un massacre qui a profondément marqué les Indiens. Marie-Hélène Frissé, c'est Wounded Knee que j'évoquais au tout début des missions.
Oui, c'est tragique parce que c'est un malentendu. C'était une population déjà déplacée, où il y avait une majorité de femmes et d'enfants. Lors d'une algarade, d'une simple algarade, certains ont commencé à tirer. Donc les soldats ont répliqué à la mitrailleuse et ça a été une boucherie épouvantable. C'est vraiment la honte quand même. Aujourd'hui, je pense que tous les Américains en sont un petit peu conscients. Quand on voit des Américains, vous savez, classe moyenne au musée de Wounded Knee, et qu'on les questionne, ils ne sont pas heureux de ce qui s'est passé. Alors il y a aussi une prise de conscience actuellement quand même du fait que les Indiens ont été vraiment trop maltraités, mais c'est un peu tard.
Entre-temps, enfin, il faut rappeler que après ces guerres indiennes, commence à se mettre en place un bureau des affaires indiennes, qu'on crée des réserves. Il y a une loi très importante, dites-vous dans votre livre, Marie-Hélène Frissé, c'est le Dawes Allotment Act, la loi Dawes.
Oui, parce que en fait, c'est une loi qui pourrait paraître fondée sur de bonnes intentions et qui consiste à attribuer à chaque famille indienne des parcelles privatives, en les incitant bien évidemment à devenir agriculteurs. Et ces parcelles ne sont pas d'ailleurs petites. Mais le problème, c'est que les Indiens, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas agriculteurs. Et malheureusement, ces parcelles sont cessibles, peut-être pas dans certains cas à la première génération, mais à la deuxième ou à la troisième. Alors ce qui va se passer, c'est que devant l'échec de leurs efforts en tant qu'agriculteurs, la plupart des familles vont vendre. Et que les réserves indiennes aujourd'hui sont truffées de petites enclaves, voire de grandes enclaves. Quand on va dans le Montana, a dans la réserve des Flatheads, on s'aperçoit que les deux tiers appartiennent de cette réserve appartiennent à des Blancs. Alors aujourd'hui, les Indiens rachètent du terrain quand ils le peuvent, mais ça a été catastrophique parce que les Indiens étaient habitués à une vie collective. Donc avoir des parcelles privatives n'était pas dans leur culture. Pour eux,
oui. Il y a une chose qui paraît aberrante quand même, c'est que les Indiens d'Amérique sont les premiers habitants des États-Unis par définition. Or, ils ont été considérés jusqu'en 1924 comme des étrangers. C'est en 1924 seulement que le gouvernement américain leur donne la nationalité américaine.
Oui, c'est, ben, vous savez, les Indiens, c'est quand même une entité séparée à l'intérieur du continent nord-américain, d'autant qu'il n'y a pas eu ces mouvements de très grands brassages comme il a pu y avoir au Mexique et à certains égards en Amérique du Sud. Et donc, quand ils deviennent américains en 1924, moi j'aurais tendance à dire, ça leur fait une belle jambe. Je veux dire, à cette époque-là, ils sont très peu nombreux, ils sont en très mauvais état. Ils deviennent américains pratiquement à la pire période de leur histoire, car à partir des années 30, les choses vont un petit peu commencer à s'améliorer. Heureusement, il va y avoir un commissaire aux affaires indiennes, John Collier, qui d'ailleurs est quelqu'un qui est assez controversé, mais qui va essayer de s'intéresser de manière sincère au sort des Indiens.
Alors, ça ne va pas les empêcher, ces Indiens, de cesser de se résigner à leur sort. En 1973, date d'une des plus célèbres manifestations d'Indiens américains, à l'endroit même du massacre de Wounded Knee, 83 ans plus tôt. France Inter, François Charpentier, le 14 mars 1973.
Du tam-tam dans la prairie, où les peaux rouges en colère. Il y a 15 jours, 200 Indiens se sont emparés de 10 otages et ont occupé le village de Wounded Knee dans l'état du Dakota du Sud. Aujourd'hui, ce petit village où a eu lieu en 1890 le dernier massacre d'Indiens qui fit 300 victimes est encore occupé par la tribu des Sioux. Cette nouvelle révolte des Indiens est-elle le signe que les peaux rouges ont déterré à nouveau la hache de guerre? L'occupation de la prison d'Alcatraz, il y a près d'un mois, la mise à sac du Bureau fédéral des affaires indiennes de Washington, semblerait peut-être le faire croire. En fait, cette hostilité ne date pas d'hier. Les relations entre Blancs et peaux rouges se sont depuis longtemps détériorées.
C'était Remember Wounded Knee, l'extrait d'un album intitulé Red Power. Alors cette occupation de Wounded Knee, ça, vraiment c'est la première fois peut-être en Europe qu'on entendait parler des Indiens depuis justement le massacre de Wounded Knee ou depuis Little Bighorn, Marilyn Freycet.
Ah, il y avait eu l'occupation de l'îlot d'Alcatraz avant, qu'il
avait
déjà commencé à faire
mais
parler.
Mais ça, Wounded Knee, je ne sais pas, ceux qui étaient déjà des adolescents à l'époque se souviennent, moi je me souviens très bien d'avoir vu des Indiens avec cette expérience 73, avec des fusils à la main en train de braver pendant 71 jours hein, de braver le gouvernement américain. C'était organisé par qui
C'était l'American Indian Movement qui à l'époque était le porte-parole, si vous voulez, de la frange vraiment agissante du ce qu'on a appelé par la suite d'ailleurs le Red Power. Aujourd'hui, l'American Indian Movement a moins d'influence qu'on ne le croit généralement en France. C'est un mouvement qui a surtout pris racine chez les Indiens des Plaines et particulièrement chez les Sioux. Mais l'intérêt, c'est que ça a déclenché, si vous voulez, toute une série d'initiatives à peu près dans toutes les tribus. Toutes les tribus sont devenues très combatives, non pas avec les armes, mais avec les moyens que leur donne la loi. Et comme vous savez qu'en Amérique, maintenant, on se fait des procès à tout bout de champ, les Indiens ont particulièrement bien compris qu'ils pouvaient, avec de très bons avocats, ressortir les anciens traités qui n'avaient pas été respectés et obtenir beaucoup de choses, gagner au pourtour, à la fois en termes d'allocation, en termes de droits sur les mines, enfin les richesses dont les réserves sont détentrices. Et c'est un formidable chantier juridique qui d'ailleurs va durer notamment au Canada aussi d'ailleurs, mais il y a un chantier pour 150 ans. C'est absolument hallucinant le nombre de juristes qui travaillent des deux côtés d'ailleurs là-dessus. Et ce qui est formidable, c'est qu'on voit en même temps une renaissance culturelle. Donc l'Indien n'est pas mort, il faut le dire de manière très ferme, si vous voulez. On n'est pas dans la nostalgie quand on va sur place. Ce sont des gens qui vous reçoivent comme des gens qui sont chez eux, qui ont un projet pour leur collectivité, qui savent que c'est très dur actuellement, mais ils iront de l'avant. Et moi, j'ai confiance.
Il n'est pas mort, mais enfin, il va pas bien. Vous le rappelez quand même, et on le rappelle d'ailleurs depuis plusieurs années aux États-Unis. Il y a eu plusieurs livres, là, il y a eu un rapport du Congrès qui indique quand même que c'est une population, d'abord, qui est la plus ancienne, mais qui n'est toujours pas bien intégrée, et qui bat des records dans les domaines les plus sinistres, du chômage, de l'alcoolisme, etc., de la pauvreté aux États-Unis, les plus anciens habitants des États-Unis.
Oui, parce que ce sont des populations qui ont pris de plein fouet le choc culturel, si vous voulez. Mais ça, à certains égards, le problème noir aux États-Unis, c'est la même chose. C'est-à-dire que on peut pas comme ça, d'une génération sur l'autre, à moins de mettre énormément de travailleurs sociaux, beaucoup de gens compétents, et de surtout faire émerger les talents au sein des collectivités, on peut pas renverser une situation. Et ça se perpétue de génération en génération. Alors c'est vrai, ils ont beaucoup d'alcoolisme, ils ont un problème de maltraitance, de violence, de déstructuration sociale. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est qu'ils ont trouvé des moyens d'avoir de l'argent, avec cet argent d'obtenir donc des services sociaux et donc de rebondir, mais par leurs propres moyens.
Combien sont-ils aujourd'hui ? Alors, parce qu'ils étaient 7 millions au moment, on l'a dit hier, au moment où Colomb est arrivé en Amérique. Oui. Ensuite, leur nombre a décru, je crois, jusqu'à 250 000 à la fin du 19e.
Ah oui, c'était catastrophique. Et maintenant, ils sont aux États-Unis 2,5 millions, ce qui est un petit peu moins d'1%. Et ils sont au Canada 1 million, ce qui est plus de 3%, ce qui est quand même pas si mal. Alors, ces chiffres-là tiennent compte uniquement des gens qui se déclarent indiens lors des recensements. Donc, il y a beaucoup de gens métissés qui sont de culture indienne, mais pas seulement.
Comment se fait-il, parce que c'est pas le seul peuple qui a été persécuté dans l'histoire, qu'il nous fascine peut-être plus que les autres, Marie-Hélène Fraissé, ces Indiens d'Amérique?
Bah écoutez, je sais pas, il faut que chacun analyse son propre parcours par rapport aux Indiens. Moi, j'ai vu assez peu de western quand j'étais petite, je dois dire, j'en ai vu quand même.
Bon,
mais c'est vrai que quand j'ai c'est vrai que c'était ça. Mais quand on écoute la parole indienne, et moi j'en ai rencontré tout à fait par hasard en fait de ces Amérindiens, j'ai senti qu'il y avait là quelque chose qui me touchait. Pourquoi ça me touchait? Parce que ce sont des résistants. Ce sont des gens qui ont courber les chines, qui ont été patients, mais qui n'ont jamais lâché. Ils ont continué, pour beaucoup d'entre eux, à garder leur langue. Ils ont attendu. Et vous savez, les Sioux disent il faudra laisser passer 7 générations. Et par génération, ils entendent plus long que nous. C'est-à-dire que ce temps n'est pas encore venu, mais au terme de cette génération, ils vont rebondir.
Merci Marine Fraissé. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'Indien, un très beau livre, magnifiquement illustré, qui vient de paraître aux éditions du Chêne. Vous avez pu entendre des extraits des films Horizon lointain de Rudolf Maté, Geronimo de Walter Hill, disponible en DVD chez Gaumont, Buffalo et les Indiens de Robert Altman, disponible également en DVD chez MGM. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission.